Chers amis qui venez d'arriver, combien il est important pour entendre une parole d'ouvrir ses oreilles. Elles sont ouvertes d'avance. On n'a pas à ouvrir, c'est déjà fait. Par contre, ce qui n'est pas fait d'avance, c'est ouvrir son cœur. Il y a des gens qui entendent, mais qui écoutent, mais qui n'entendent pas, ou qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Alors nous allons ouvrir actuellement notre cœur au Seigneur. Avec une prière, je vous invite à vous lever à votre place parce que le Seigneur, c'est le Créateur, le Sauveur, le présent parmi nous. Je suis au milieu d'eux. Et il faut qu'il y ait cet après-midi, c'est l'essentiel. Ce n'est pas une conférence pour apprendre des choses sur l'Antiquité, mais pour entrer en relation avec Dieu. Alors, ouvrons notre cœur. Nous avons besoin d'une lumière dans nos ténèbres. C'est toi la lumière du monde. Nous avons besoin d'un chemin face à mille chemins. Et toi, tu nous as dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous ouvrons notre cœur, notre attention, notre écoute à la voix du Christ qui va retentir à travers l'Évangile. Car en écoutant cette parole, elle va agir en nous, dans nos corps, nos âmes, notre mémoire, notre intelligence, nos sentiments, notre affection. Seigneur, agis maintenant par ton esprit que tu nous as donné pour la suite des siècles, afin que nous soyons sauvés par la parole. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis. Nous ouvrons donc la Bible, si vous ne l'avez pas, vous écoutez, parce que la parole de Dieu aussi, une parole que l'on écoute. Et je vais lire dans Matthieu chapitre 15, au verset 29. Matthieu chapitre 15, verset 29. Il y eut des siècles où les gens en France, en Europe, partout, ne savaient pas lire. Donc la Bible était réservée qu'à quelques lettrés. Mais des gens intelligents ont pensé qu'il fallait quand même que l'Évangile soit visible. Donc ils ont fait, à l'époque, ils faisaient des scénettes de théâtre devant les églises. On appelait ça des mystères, des miracles. Et puis d'autres ont gravé sur la pierre ou sur le verre des scènes de la Bible pour que les gens visualisent, regardent un message qu'ils ne possédaient pas chez eux. Il n'y avait pas de communication, pas de livre. Et puis merci au Seigneur pour Gutenberg et pour l'imprimerie et pour les traducteurs, etc. Nous en parlerons beaucoup l'année prochaine. Mais aujourd'hui, vous avez la Bible, vous écoutez Matthieu 15, verset 29. Jésus quitta ces lieux où il avait guéri une petite fille tourmentée par un démon et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. On peut estimer à 6 000, 7 000 peut-être. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Quelle belle page d'évangile, mes amis, quelle belle page de voir ces guérisons de malades, ces guérisons d'aveugles, de sourds, d'estropiés, d'infirmes, et puis du pain dans le désert. C'est une page de paradis. C'est une bouffée d'air frais qui nous vient en nous montrant que sur la terre, on peut vivre peut-être pas partout à grande échelle, mais on peut vivre des choses formidables. Là, on voit une page comme dans le paradis. Toutefois, c'est une page de détresse humaine parce qu'il y a des estropiés, il y a des infirmes, il y a des aveugles, des muets, des sourds, beaucoup de souffrances qui nous font poser la même question depuis toujours, pourquoi la souffrance ? Ce n'est pas une page où tout est rose, tout est beau. Il y a des gens qui souffrent et Jésus les guérit. Mais il y a des gens qui souffrent et Jésus les guérit. Et puis, il ne faut pas oublier les souffrances invisibles, les aveugles de cœur qui ne voient plus rien dans leur vie, qui ne voient pas la main des autres tendue et la main de Dieu, qui ne voient plus le bonheur venir. Qui nous fera voir le bonheur, dit un psaume. Donc, il y a des aveugles de cœur et puis des muets de cœur aussi, des gens qui ne parlent à personne parce qu'on ne leur parle pas, parce qu'on les évite, des gens qui ne parlent pas à Dieu, qui parlent à leur chat, à leur plante, à leur mort parfois, mais pas à Dieu. Ce sont des gens qui sont comme des muets. Dans le jardin d'Éden, le jardin du commencement, on n'a pas eu longtemps. Eh bien, on voit Adam et Ève qui parlent au serpent, le Satan, et qui ne parlent pas à Dieu. Voilà comment la parole peut se dévier. Il y a donc des aveugles de cœur, ne l'oublions pas, des muets de cœur et puis aussi des boiteux de cœur. Des gens qui ne marchent plus, dont la vie s'est arrêtée, qui ont posé leurs valises, leur espérance, leur joie de vivre, qui se sont lassés de la vie, ils sont en arrêt, au bord du chemin. Les boiteux de cœur, qui ne peuvent pas marcher. Oh, il ne s'agit pas de faire des grands voyages pour être heureux, comme Ulysse. Il ne s'agit pas de courir la terre et la mer. Je pense qu'on peut faire de belles choses sans bouger tellement de sa maison. Le Seigneur nous a dit « marchez dans la charité ». C'est-à-dire aller dans votre cœur vers un mieux-être, aller dans votre cœur vers un embellissement de la vie. Restez pas avec la télé, le portable, l'ordinateur, allez vers quelque chose de plus beau, de plus frais. Marchez dans la charité. Ces gens-là sont là parce qu'ils n'ont pas trouvé de remède. La médecine de l'époque n'était pas extraordinaire, mais il y a des maux sur la terre, des maladies où il n'y a pas de remède dans la nature, ni dans notre nature à nous. On n'a rien pour se guérir d'un deuil. On n'a rien pour guérir d'une déception, d'une trahison, d'un abandon. On n'a rien pour guérir son cœur blessé. Alors, dans tout cela, la question de ce thème d'aujourd'hui, là, c'est Dieu attend quoi de nous ? Il attend quoi ? Quand on voit dans la vallée des ossements, Ézéchiel, le prophète, a eu une vision d'une grande vallée remplie d'os, sec. C'était une armée qui était disparue. Et voilà que Dieu pose une question à Ézéchiel. Ces os peuvent-ils revivre ? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais, toi tu le sais, moi je ne sais pas. Ce qui veut dire que on se demande ce qui peut arriver dans notre vie, comment ça peut changer, comment ça peut revivre, alors qu'on a l'impression qu'on s'est arrêté, qu'il n'y a plus rien à attendre. Alors, Dieu attend quoi de nous ? On n'est plus capable de donner. On voit dans la multiplication des pains des petits détails. On est venu mettre tous les boiteux, les estropiés, les aveugles aux pieds de Jésus. Il était dans le désert de Galilée, sur les montagnes, sur les collines, et on a transporté ces gens qui ne marchaient plus, qui étaient aveugles dans la nuit, dans l'infirmité, on les a amenés aux pieds de Jésus. Ça veut dire que ces gens malades ont eu un désir. Ils ont fait un effort. Ce n'était pas tout près, il n'y avait pas le métro. Ils ont fait un effort. Ils ont demandé à aller à la conférence de Jésus. Ils ont eu une foi active. Ils n'avaient que cela à donner, leur présence. Et on les a mis aux pieds de Jésus. Qui pourrait aujourd'hui nous mettre aux pieds de Jésus ? Vous n'auriez pas envie d'être aux pieds de Jésus ? De vous asseoir quelques minutes, pourquoi pas une heure, une journée, et puis là, écouter le Seigneur, lui parler. Qui pourrait nous porter aux pieds de Jésus ? Vous pouvez le dire, ce n'est pas un secret. Moi, je connais 4 personnes qui sont très spécialisées dans ce genre d'opération. Et je peux vous assurer qu'avec ces 4 personnes, vous êtes sûr d'être bien porté et d'aller au bon endroit et de ne pas vous tromper. Je vous les donne quand même, les noms. Je n'ai pas leur téléphone, mais j'ai leur nom. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 porteurs nous amènent à Jésus pour que nous ayons la foi et la vie éternelle. Amen. Ils les ont mis à ses pieds et il les guérit. Je suis surpris parce que la Bible qui est très pointilleuse, dans la Bible, une virgule, c'est une virgule. La Bible ne dit pas que ces gens-là ont crié leur désespoir, ont prié, qu'ils ont apporté des offrandes, des sacrifices pour mériter quelque chose. On a l'impression que la foule est silencieuse. On met les gens malades aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'approche et il les guérit. Avant que la foule, on a l'impression, ne demande. De toutes les façons, sachez que l'amour de Dieu est premier. Avant qu'on fasse quelque chose, avant qu'on se déplace, Dieu nous aime. Il nous a aimés le premier. Et sachez que l'amour de Dieu, nous disons chez nous souvent la grâce, un amour gratuit. La grâce de Dieu est supérieure à notre foi, supérieure à notre prière. Parce que Dieu, c'est Dieu, et nous sommes là comme des limaçons sur la terre. Et ce que nous faisons, ça paraît parfois impressionnant, mais Dieu fait des milliards de fois plus. Il a donné son Fils unique. Alors là, ils sont sur la montagne, et ils vivent 3 jours de paradis, de résurrection, comme au temps de l'Exode dans le désert où Dieu envoyait la manne et les cailles aussi, et il faisait de grands miracles. Ils revivent l'Exode, ils revivent le paradis, c'est beau, c'est beau. J'aurais bien aimé être là. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'ils rentraient le soir pour dormir dans leur lit bien chaudement ? Jésus dit, voilà 3 jours qu'ils sont là, 3 jours. On a l'impression qu'ils ne rentraient pas dormir chez eux. Et on a l'impression qu'ils ne rentraient pas du tout, même pour chercher un sandwich. Dites donc, je vous pose une question. Ne me répondez pas, réfléchissez. Qui parmi nous prendrait 3 jours, un grand week-end, 3 jours de retraite avec Jésus dans le désert? Moi, je veux bien. Et vous? On veut tous, hein? Attendez, je n'ai pas fini ma phrase. Avec 7000 personnes, là c'est un peu plus difficile. 7000 personnes, sans les commodités, sans la douche, sans l'hôtel, sans la chambre, sans le lit, sans rien, sans manger. Qui lève encore la main? Il y en a encore certains. Mais oui, mes amis, quand on a un enfant malade, on ferait cela. J'ai rencontré des gens d'ici dans la région qui m'ont dit « On irait aux États-Unis pour notre fils malade. » Oui, on irait jusqu'au bout du monde, on décrocherait la lune pour un enfant souffrant. Mais quand même, regardez la qualité, je veux dire le mot, de foi de ces gens-là, qui sont capables de passer 3 jours dans l'inconfort. C'est peut-être un petit peu frais le soir ou le matin, dans l'inconfort, dormir en pleine nature, comme dans le désert, à côté de Jésus. Le problème quand même, c'est qu'ils ne mangent pas. Ils n'ont rien mangé depuis 3 jours. Et la faim est quelque chose de terrible. Chaque fois que je peux regarder une émission, pas toujours facile à regarder, des émissions sur ces gens qui partaient parfois pour les camps de déportation sans manger pendant 3 jours de train. Ils arrivaient, parfois il y avait 10, 15, 20, 30 morts dans le wagon. La faim, mais c'est terrible, la faim, la soif. Et Jésus, devant cette grande foule, est ému de compassion. Il est ému, c'est-à-dire pris aux entrailles, bouleversé, parce qu'il se dit, il ne mange pas. Il meurt de faim. C'est une souffrance d'avoir faim. Ils font des efforts. Jésus voit tous nos efforts quotidiens. Il y a eu des temps pour aller chercher une baguette de pain, il fallait faire la queue pendant 2 heures. Ce n'est plus aujourd'hui le cas. Mais on fait aussi des temps de déplacement, des temps d'attente, des temps où l'on travaille, on recommence toujours et les choses ne se mettent pas en place. Et tous ces jours où l'on tourne un peu en rond, qui sont difficiles dans notre tête, dans notre cœur, tous ces temps-là, Jésus les voit et il est ému de compassion. Il souffre pour nous quand on ne mange pas bien, quand on vit mal, quand on fait, qu'on refait, qu'on défait. Et Jésus dit, regardez la délicatesse de Jésus, mais c'est la même aujourd'hui. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Je ne veux pas. Si quelqu'un passe chez vous ce soir et qu'il a encore 40 km à faire, vous allez lui donner quelque chose à manger, un biscuit, une tasse de ricorée. Je ne veux pas les envoyer à jeun de peur que leur force leur manque. De peur que leur force manque. Que dit Jésus aujourd'hui sur les migrants qui traversent la mer au risque de leur vie avec les enfants, qui vont sur les chemins de l'Europe bousculés, maltraités, piétinés? Les forces manquent. Que dit Jésus aujourd'hui sur tous ces gens qui n'ont plus de force pour lutter, pour résister, pour dire non, pour dire oui, qui sont manipulés, désorientés, bousculés par les enfants, bousculés par des patrons? Que dit Jésus? Il est ému de compassion. Nos souffrances ne le laissent jamais insensible. Alors Jésus dit la question, combien avez-vous de pain? Ils auraient dû réagir, les apôtres, parce que quelques jours avant, il y a déjà eu une multiplication de pain. Mais voyez-vous, notre mémoire est très courte. Quand Jésus leur a dit ça, ils n'ont pas dit « Ah, ça recommence, la multiplication ». Ils n'ont pas dit ça, ils ont été encore désemparés. On oublie facilement les belles choses du passé. Il faut se les rappeler souvent. Combien avez-vous de pain ? Alors ils vont compter. Jésus les fait compter. 1, 2, 3 là-bas. 4, 5, 6, 7. 7 pains. Jésus les fait compter parce que Jésus veut leur montrer leurs limites. Jésus leur montre leur insuffisance, leur impossibilité, leur incapacité. Dieu attend quoi de nous ? Ben, il le sait, hein, il n'attend pas beaucoup. Il n'attend pas beaucoup parce qu'on n'a que 7 pains pour nourrir 7000 personnes. Il sait qu'on ne va pas lui donner satisfaction. Les problèmes sont plus grands que nous. Quand vous avez un enfant malade, que voulez-vous faire ? Quand vous êtes estropié, quand vous allez vers la fin de vie, que voulez-vous faire ? Dieu sait bien qu'on ne peut pas faire certaines choses. On n'est pas Dieu. Combien avez-vous de pain ? 7. J'aime bien le chiffre 7. C'est le chiffre de la création. Ça aurait dû leur parler aux apôtres. Ça veut dire que quelque chose peut se créer. Rien n'est désespéré. Rien n'est perdu. Quelque chose va se passer. Et Jésus prend les pains. Donnez-moi les pains. Il prend les pains dans ses bras. Oh, ce n'est pas des grands pains comme on a parfois dans les campagnes, des gros pains de 4 kilos. C'était souvent des petits pains. Il prend les pains, il les fait asseoir, donc il les fait attendre. Et puis là, il leur fait sentir que c'est nécessaire de donner à Jésus nos impossibilités. C'est nécessaire de dire dans une prière, « Seigneur, j'ai très peu, je suis très fragile actuellement, je suis dans un état de dépression. » J'ai très peu, j'ai peu de foi, je ne sais pas si je m'en sortirai. Mais le peu que j'ai, je te le donne. Je veux te faire confiance. J'ai peu de prières, je suis tellement fatigué que je ne trouve plus les mots, je suis balbutiant. Je te donne ma prière. Je te donne la petite place là que j'ai dans mon cœur qui est pauvre, mon cœur qui est aveugle, on l'a vu tout à l'heure, hein. Mon cœur qui est boiteux, qui est muet, qui ne sait plus parler. Je veux te donner le peu que j'ai. C'est important, hein, de donner au Seigneur même très peu. Parce que en donnant les 7 pains, en donnant le peu que nous avons, nous participons au salut avec notre confiance et notre conscience. Conscience. Parce que le Seigneur ne sauve pas des momies engourdies, anesthésiées. Il ne les emmène pas dans le paradis sans leur dire quelque chose. On est conscient quand on est chrétien. On sait, je sais en qui je crois. Et le Seigneur veut nous dire, eh bien, il faut que tu m'apportes quelque chose, une prière, un appel, ta confiance, ton amour, ton espérance, afin d'avoir conscience que je fais quelque chose. 7 pains, on ne va pas aller loin avec ça. Ça ne va pas nourrir la foule. Surtout que dans la foule, il y a toujours des grands mangeurs. Je connais des jeunes, 7 pains, ça ne leur fait pas peur. Mais ce petit geste attend la grâce de Dieu. Ce petit geste, il reçoit la grâce de Dieu. Il reçoit le secours de Dieu. Ce petit geste, c'est comme une petite main tendue vers Dieu pour dire, « Seigneur, je t'apporte une prière faible, viens me guérir. » Viens toucher ma famille, viens réparer mon couple, viens me délivrer de l'angoisse, de l'inquiétude. Un petit geste qui attend la grande rédemption. Rédemption, ça veut dire libération. Parce que celui qui nous sauve, c'est Jésus, c'est pas nous. Dieu attend quoi de nous ? Voilà la question de ce jour. Avez-vous réfléchi, qui a donné les 7 pains? Peut-être 7 personnes différentes, mais à chaque fois dans les évangiles qu'il y a du pain, il y a un petit garçon derrière. C'est étonnant. Un petit garçon, ce n'était pas la grâce au petit garçon, c'est toujours la grâce à la maman. Derrière chaque petit garçon intelligent, il y a une maman. Et peut-être que la maman a dit, avec Jésus, tu sais quand tu pars, tu ne sais pas quand tu reviens. Donc je vais te donner 5 pains. On l'a vu déjà dans l'histoire de l'Évangile. 5 pains et 2 poissons. Un petit garçon avait ça une fois. C'est peut-être un petit garçon. C'est peut-être 2 personnes, 3 personnes qui ont amené au fond de leur poche un peu de pain. Mais dites-moi, la foule, elle n'a rien donné. Elle n'a rien donné. C'est peut-être une personne qui a donné pour tout le monde. Ce qui veut dire, Dieu attend quoi de nous? Je pourrais faire défiler la foule, là, aujourd'hui, les 7000 personnes de la multiplication. Qu'avez-vous donné? Rien. Qu'avez-vous donné? Rien. On n'avait rien. Et vous? Rien, rien, rien. Le petit garçon dit, oui, moi j'avais 7 pains. La foule n'a rien donné. Qu'avons-nous donné à Dieu pour qu'il nous sauve? Si peu. Devant la grandeur de son amour. Et Jésus a pris les pains et dans l'évangile, il y a aucun mot n'est au hasard. On n'écrit pas l'évangile comme on écrit un petit mot pour aller faire des courses. Il y a 2 mots qui ont du poids dans ce texte. Il rompit les pains. Il les a cassés, il les a brisés, il les a mis en morceaux. Et il les a donnés. C'est important ce mot. Briser, rompre, donner. C'est ce qu'on fait à la scène dans l'Église, à la communion. On rompt le pain et on donne. Mais ce geste est beaucoup plus important que ça. Ce geste nous parle de briser Jésus, brisé pour nos péchés. Jésus rompu pour nos péchés. Cassé pour nos péchés. Et Jésus donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même. Brisé, donné. Ce geste de Jésus devant toute la foule, devant tous ses enfants, ses jeunes, toutes ces personnes malades, guéries ou à guérir, Jésus fait le geste qui montre sa mort, sa passion, le don de lui. Alors Dieu attend quoi? Il attend quoi de nous? Non, ce n'est pas la bonne question. Je ne me suis pas trompé, hein. Mais la vraie question, c'est Dieu attend qui? Il attend Jésus. Jésus qui donne sa vie pour nous. C'est lui le pain qui se multiplie. Jésus donne sa vie pour nous. Il attend le Christ qui va donner sa vie en offrande pour régler définitivement le problème du mal, le problème du péché, le problème de la colère de Dieu. C'était au XVIe siècle, au XVe siècle, c'était une torture pour les gens sérieux, sincères, chrétiens. Une torture de dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Parce que tout le monde avait un sentiment qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui. Que si nous ne réglons pas notre vie avec Dieu, nous allons avoir à affronter la colère de Dieu. Parce que Dieu n'est pas content de nous voir faire des mauvais choix, trahir, tromper, blesser, injurier. Il n'est pas content de ça. Il ne dit pas « bravo, mes amis, vous êtes libres, c'est la liberté républicaine ». Il ne dit pas ça. Il est en colère contre le mal et en colère aussi après nous parce qu'il nous veut à lui. Ma mère, parfois, s'est mise en colère après moi. Mais elle n'est plus là, mais je peux la remercier. Parce que si elle m'avait dit « oh, mon petit chou, je ne veux pas te traumatiser », je serais peut-être devenu un bandit, mais elle me mettait des claques avec amour et elle me reprenait. Et dans sa colère, je voyais de l'amour. Dans sa colère, je voyais de l'amour. Que pouvons-nous faire? Dieu attend qui? Jésus. C'est lui, l'offrande, donc, pour que des forces nous soient données, pour qu'on puisse continuer notre chemin avec Jésus, pour Jésus. On est accompagné par Jésus. Vous savez ce que ça veut dire, le mot « accompagné » ? Écoutez bien, le mot « accompagné », ça veut dire manger le pain avec quelqu'un. Quand on dit parfois « je vous accompagne », ça ne veut plus rien dire. Mais autrefois, « je vous accompagne », ça veut dire « je mange le pain avec vous », »,« je partage le pain avec vous ». Et le Seigneur partage la vie avec nous. Quoi donner à Dieu ? Bien, je vais vous le dire maintenant. Je vais vous le dire en faisant une petite lecture. Vous écoutez simplement, ce sera très court. C'est dans le livre de Michée, au chapitre 6. C'est un petit prophète d'Israël, de l'Ancien Testament, qui pose la même question que j'ai posée pour cette conférence. Dieu attend quoi de nous ? Écoutez bien, c'est très court. Avec quoi vais-je me présenter devant le Seigneur ? Avec quoi ? Est-ce que je vais me présenter avec des veaux ? À l'époque, on offrait des veaux dans les sacrifices. Vais-je me présenter avec des veaux, des milliers de béliers, des torrents d'huile ? L'huile, c'était très très cher. Donc, quand on faisait un cadeau d'un vase d'huile, c'était la bénédiction. Vais-je donner à Dieu des torrents d'huile ? Écoutez bien. Vais-je donner à Dieu mon fils premier-né ? Michée, Israël, se pose la question, une vieille question. C'est une vieille question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers Dieu ? Comment vais-je combler le fossé qui me sépare de Dieu ? Parce que quand on lit la Bible, le Seigneur éclaire nos fautes, nos faillites, le fossé qui nous sépare de lui. Comment vais-je combler ce fossé ? Et le Seigneur mettra en lumière tous mes secrets, tout ce que personne ne sait. Et il y aura un fossé de très grand entre Dieu et moi. Le prophète, il est prêt à payer le prix fort. Israël dit, moi je suis prêt à payer pour que ça soit comblé. Des sacrifices, des animaux, milliers, des milliers de taureaux, de veaux, des torrents d'huile, de l'argent, de l'or. Mon fils est né. La folie, absurdité, le fils est né. Mais ça montre bien que on avait conscience qu'il fallait un grand remède. C'était pas en disant seulement bonjour, il fallait un grand remède qui serait même un sacrifice pour pouvoir aller vers Dieu. Et bien tout ça, mes amis, je vous le dis, c'est une fine poussière sur la balance de Dieu. Très fine poussière, ça n'a pas de poids, c'est rien du tout. Même si vous donniez la terre et la lune, c'est rien du tout. Et le Seigneur répond à Michée, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques ce qui est juste. » C'est que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà, c'est tout. Je me sens apaisé parce que si le Seigneur m'avait dit « il faut que tu t'arraches les yeux, que tu donnes toute ta maison, que tu donnes ton corps, ta vie », qu'est-ce que j'aurais fait ? Mais là, il me dit « marche simplement dans la modestie, aime les autres, reste simple, et puis fais ce qui est bien. » C'est tout, Seigneur, c'est tout. Je m'attendais à décrocher la lune. Je me sens apaisé, je me sens rassuré, je me sens vivant, revivifié. Mais qu'est-ce qui s'est passé, au fait ? Il y avait un fossé entre Dieu et moi. Je l'ai vu, le fossé. J'ai lu la Bible, j'ai vu qu'il y avait un fossé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tu me dis des choses tout à fait simples. Marche gentiment, sois modeste, sois pas trop fier, aime les gens. C'est tout. Qui a comblé le fossé? Qui a apporté du pain? Jésus-Christ. Sacrifice d'amour. Offrande d'amour. Maintenant, vous allez me croire, et c'est là l'essentiel, j'espère, on n'a rien à donner, on n'a rien à payer, on n'a rien à mériter. On n'a plus d'œuvre à faire pour acheter Dieu, pardonnez-moi, acheter Dieu. On a simplement qu'à marcher avec lui, vivre avec lui, parce que tout a été accompli par Jésus-Christ. Amen. Sur la croix, il a crié, « Tout est accompli !» On l'a entendu, les gens l'ont entendu, les apôtres l'ont entendu. Tout est accompli, c'est réglé, c'est payé, tout est prêt. Venez aux noces, tout est prêt. C'est beau l'évangile. Alors comme ça, je dis aux gens, gardez votre argent, gardez vos œuvres, gardez tout. Faites confiance simplement. Mais avec quoi me présenter, disait le prophète. Alors c'est là que j'aime dire encore une fois. Avec quoi me présenter devant toi quand je vais partir dans le royaume là-haut? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel est le billet de transport, le titre de transport? Quel est le passeport dont j'ai besoin, le certificat dont j'ai besoin pour paraître devant toi et être bien? Avec quoi je vais me présenter? Non, pasteur Leprat, ne parle pas comme ça. Avec qui je vais me présenter? Avec qui? Je vais me présenter là-haut avec Jésus-Christ, en qui j'ai mis toute ma confiance. Dieu attend quoi de nous? Confiance? Espérance en Dieu? Amour de Dieu? Amour pour les autres? Marche avec Dieu? Détente? Confort? Luther disait, c'est du confort la foi. Il n'y a pas de tyrannie, il n'y a pas de « tu dois, il faut que… » Le Seigneur dit « je t'aime d'un amour éternel. » Amen. Je m'occupe de ta maison, je prends soin de toi. Je sais quand tu te lèves, je sais quand tu t'assieds, psaume 139. Je sais quand tu te lèves, je sais quand tu te couches. Le Seigneur sait tout de nous, je connais tes pensées. Je vois ce qui t'accable, ce qui torture ton esprit. Je te connais, je t'aime, je te porterai. Merci Seigneur. Amen.